Les jours passent, mais les vues restent. Bienvenue aux Voyeurs de vue. Les Voyeurs de vue, c'est un podcast où il y a moi-même, Yannick Belzile.
Et moi, Alex Rose.
Et où devant l'éternel, on écoute des vues et on vous en parle. Puis c'est un podcast justement qui est gratuit pour tout le monde sur le Patreon de Trois Bières. Mais si jamais ça vous dit de pouvoir écouter les Voyeurs de vue straight dans votre catcheur de pod ou d'encourager Trois Bières en général et d'encourager les Voyeurs de vue, vous pouvez nous encourager au patreon.com/trois bières comme d'habitude. Si vous prenez genre le forfait 2$ par mois, vous allez pouvoir avoir les Voyeurs straight dans votre machine. Alors, et on aime ça simplifier la vie. Ici, n'est-ce pas, Alex?
Effectivement, c'est une habitude à prendre pour tous, je pense. Moi, mais l'app de Patreon est quand même correct. Hein? Il fait la job, mais moi, j'aime mieux quand même tous mes podcasts au même endroit.
Cette semaine, on a comme je pense qu'on a des affaires variées, on a des vues variées, parce que c'est ça, c'est un peu le fun de l'émission pour nous autres, justement, d'écouter des choses variées. Justement, je peux commencer... l'épisode de la semaine avec ça, j'ai décidé de passer à un film qui m'intéressait, mais aussi qui je savais qu'elle intéressait ma copine. On a écouté ensemble le film de Michael Apted, Coal Miner's Daughter, qui vient juste d'arriver sur Netflix. C'est un film de 1980. C'est un biopic, un film biographique sur la vie de la chanteuse country Loretta Lynn. Moi, je connais Loretta Lynn. J'aime beaucoup Loretta Lynn, mais je vais être honnête. J'ai vraiment une connaissance, tu sais. J'ai une connaissance best-of de son catalogue. Tu sais, j'ai pas été deep dans ses affaires, mais je connais une couple de ses hits, puis. Je connais une couple de ses hits, puis je les aime beaucoup, comme Fist City, c'est fucking bon, là. Puis, même à travers ces tunes-là, il y a comme vraiment une personnalité qui émerge de cette chanteuse-là. C'est avec 3-4 tunes, avec 3-4 hits de Loretta Lynn, tu peux te l'imaginer comme personne. Tu connais comme le personnage, ce qui est quelque chose qui n'est pas donné à tous les chanteurs, à tous les artistes qui existent. Et puis, le film qui parle de sa vie, de elle qui a grandi dans les Appalaches, tu sais, avec les hillbillies, puis les rednecks, puis tu sais, toutes les mauvais termes qu'on peut dire du monde qui vivent dans les montagnes aux États-Unis, puis qui travaillent dans les mines, puis qui sont, tu sais, souvent comme le secteur le plus coupé des États-Unis. Comment que cette femme-là, elle a rencontré son futur mari quand elle était extrêmement jeune, et comment ils se sont mariés et comment elle est devenue chanteuse, une des plus grandes chanteuses western avec l'aide de son mari, puis par la suite un peu par dépit de son mari. Ça met en vedette Sissy Spacek qui joue Loretta Lynn et un plus jeune Tommy Lee Jones qui joue son mari Doolittle, qui est franchement inquiétant. Jeune, tu sais, même jeune Tommy Lee Jones, il y a déjà comme ses rides sur le bord des joues ou des pommettes qu'on lui connaît. Fait que de le voir jeune, je le trouve un petit peu inquiétant. Mais bref, le film, c'est vraiment loin de ce qu'on connaît comme les formules de films biographiques, surtout ceux sur des artistes musicaux maintenant. Tu sais, c'est j'irais même jusqu'à dire que c'est raconté de façon quasiment gritty. Pas all the way, mais tu sais, il y a une grosse vibe. Je me rappelle ce genre de film que, tu sais, ça se passe, il y a beaucoup justement d'extérieur dans le bois, il y a du grain. J'ai comme une mémoire d'écouter ce genre de film-là le soir à Télémétropole avec mes parents quand j'étais jeune. Là. Il me semble que c'était un film de ça. Là. Fait que, mais ça raconte justement la vie de Loretta Lynn, puis comment elle a rencontré ce gars-là. Et c'est
SpaceX d'ailleurs qui a gagné un Oscar pour ce film-là en 1981.
Donc... Ouais, ben avec raison, parce que tu sais, elle joue Loretta Lynn à comme 14 ans, puis jusqu'à tu sais, comme 30-35, puis la transformation est crédible et vraiment bonne. À un moment donné aussi, il y a on a tu sais, c'est un film qui a de l'air qui a tout le temps comme un, le background est tout le temps glauque pareil, parce que t'oublies pas d'où elle vient, mm-hmm. puis comment que c'était des conditions économiques vraiment rough. Puis justement, la chanson country à cette époque-là, encore là, ou encore maintenant aussi, mais surtout à cette époque-là, tu sais, il chantait pour ce monde-là directement à ces gens-là. Mm-hmm. Fait qu'il y a de l'affaire très authentique là-dedans. Mais à un moment donné, quand Loretta devient une plus grande vedette, puis elle rencontre Patsy Cline, qui est jouée par Beverly D'Angelo, là, le film devient soudainement juste un petit peu plus le fun. Tu sais, c'est pas wacky comme Walker, d'où ce que Elvis Presley joue, ou Jack Black joue Elvis Presley, là. Mm-hmm. Mais
Jack White, qui a produit un disque de Loretta Lynn en 2004, Van Leer Rose.
Oui, oui, qui est très bon, que j'aime beaucoup. Qui est disponible sur Spotify. Allez l'écouter sur Spotify.
Ouais, c'est très bon. C'était comme Jack White a fait ça avec une couple d'autres personnes. Il a fait un pour Wanda Jackson aussi. Tu sais, de sortir des chanteuses country et leur donner des nouvelles tunes. Pas des vieilles tunes de country, mais des tunes contemporaines, des affaires de même.
Mm-hmm. Puis, bref, il y a tout le temps cette affaire-là dedans, un peu de glauque dans le background. Et aussi, bien sûr, Tommy Lee Jones qui est super inquiétant. Là. Surtout au début du film, il y a comme les cheveux teint blond, qu'il y a de l'air d'une version corrompue de Chris Evans dans un film de Captain America. Il y a de l'air de... Je te l'ai dit là, à Messenger, là, mais Tommy Lee Jones là-dedans, là, il y a de l'air d'un Captain America, ça ne dérange pas d'aller au Vietnam puis de faire la mauvaise chose. Là. C'est ça qui a de l'air. Là. Fait, bref, c'est ça, c'était vraiment bon. Et justement, la performance de Sissy Spacek aussi est vraiment écœurante. J'étais vraiment comme surpris tout le long que c'est comme, ah, c'est juste raconter leur histoire à ces gens-là. Mm-hmm. C'est pas... Ils essayent pas de coller des aspects musical. Il y a vraiment juste, vers la fin, on commence à entendre les gros hits. C'est un film qui s'est vraiment comme gardé, pas juste une petite gêne, mais même une grosse gêne de vraiment comme courir, de speedrunner dans les hits ou les affaires comme ça.
Ben, tu sais, je pense qu'une des raisons pourquoi, à cette époque-là, les biopics sont un petit peu moins convenus, c'est que beaucoup des gens qui sont dans les biopics sont soit encore vivants ou... T'sais, leur estate croyait pas vraiment au film. Parce que je pense que là, ce qui arrive beaucoup, c'est faut faire des films avec la coopération des personnes qui ont les droits pour les tunes puis tout ça. Puis ça devient tout le temps un peu comme édulcoré un peu. Là, c'est un peu... Tu perds un peu de justement cette liberté-là. Mais dans le temps, vu qu'il y avait moins un... Quoique, tu es rendu en 1980, ça recommençait sûrement à accélérer, là. Mais tu sais, il y avait moins une idée de qu'est-ce que ça pouvait faire un film sur quelqu'un, tu sais, l'idée que ça allait vendre plein de disques, pis ci, pis ça. Fait que je pense que c'est ça, ça commençait à chier, parce que pas longtemps après ça, il y a un film de Patsy Cline avec Jessica Lange, là, qui s'appelle Sweet Dreams, il me semble.
Mm-hmm.
Qui, lui, déjà, est pas mal plus dans le carcan d'un biopic, là, tu sais. Pis là, après ça, t'as comme, tu sais, La Bamba, pis Great Balls of Fire, pis des affaires-là. Où ce que ça devient de plus en plus, là... les clichés qu'on voit dans Walk Hard.
Ouais, je me rappelle d'avoir vu tous ces deux films-là. Encore là, des grosses situations d'après-midi à TQS que j'ai vu ces films-là, je me rappelle quand j'étais jeune. Je pense que je me rappelle même plus spécifiquement d'avoir vu Great Balls of Fire chez ma grand-mère.
Ouais.
Mais tu sais, l'affaire que je me rappelle dans La Bamba le plus, c'est que le frère de Richie Valens, une fois qu'il sort du trouble, il devient genre animateur. Puis il dessine, il y a comme sa table à dessin à la maison, puis il dessine genre, je pense, Woody le Pic ou quelque chose de même. Puis sa femme, il crie, tu penses-tu que tu vas faire de l'argent en dessinant des dessins? Puis là, j'ai comme, moi, j'étais vraiment là, j'étais comme, crime, il a raison, c'est cool. Fait que la femme du frère de Richie Valens, c'est le heel du film aussi pour moi. Puis je me rappelle de Great Balls of Fire aussi, quand Jerry Lee Lewis, qui est joué par...
Dennis Quaid,
ouais. il tombe en amour avec sa cousine,
ouais.
qui est jouée par Winona Ryder. Puis là, les fils se croisent dans mon cerveau que je sais que c'est mal ce que je suis en train de voir, mais donner des smooches à Winona Ryder, ça a l'air le fun pareil. Fait que dans le fond, le film m'a vraiment amené à la même place que Jerry Lee Lewis. Fait que c'est peut-être ça le
la
c'est
morale. Ça, tu sais,
Roger Ebert l'a dit, hein, le cinéma, c'est une machine d'empathie. Fait que... fait que, ouais, c'est ça. Bref, Coal Miner's Daughter, vraiment un bon film, mais je vous dirais même, si vous voulez découvrir, comme, écoutez les hits ou écoutez une couple de tunes de Loretta Lynn, découvrez Loretta Lynn sur Spotify ou ailleurs, parce que c'est hit, j'aime vraiment, je pense que c'est du country super accessible avec du caractère. Et après, je pense aller vers le film, parce que le film représente bien la fibre de la femme qui est projetée par les chansons. Mm-hmm. Alors, si vous voulez essayer ça, là, c'est drette là, c'est au bout de vos doigts.
Puis sur Netflix, tu dis, c'est ça?
Ouais, c'est ça, il est tout récemment, il est arrivé sur Netflix ce mois-ci. Okay.
En même temps que notre film vedette, je pense.
Oui, absolument.
Ouais, moi j'ai écouté, tu sais, j'avais ça qui traînait à la maison. C'était un film que je me souviens d'avoir vu la boîte de maintes fois quand j'étais un enfant. American Pop de Ralph Bakshi. Ralph Bakshi qui est majoritairement un animateur, dans le fond, qui a toujours fait des films d'animation. Un peu un pionnier là, de l'animation mainstream pour adultes, sans pour autant être là, mettons, des affaires de porn. Là. Mais tu sais, qui faisait des affaires un peu contre-culturelles. Fait que tu sais, Fritz the Cat, Coonskin. Après ça, c'est lui qui a fait la version animée du Seigneur des Anneaux.
Oui.
Tu sais, qui est quand même weird, là. C'est quand même pas mal batté comme adaptation qui dure genre 1h10. Ça. Mais. Puis, aussi, éventuellement, Cool World. Donc, tu sais...
Ça, je m'en souviens.
Il y a quand même... Ça, je m'en souviens. Quand même une carrière un peu en dents de scie, un peu bizarre, tu sais. Puis, c'était toujours des propositions... Je pense la majorité de ses films sont des propositions quand même ambitieuses et qui se voyaient... Tu sais, qui n'existaient pas vraiment à l'époque. Fait que, pour prendre un exemple... Le film que j'ai regardé, American Pop, se veut comme un portrait de la musique américaine du 20e siècle. Fait que ça a été fait en 1980. Fait que ça va de style 1902 à 1980. Puis, c'est en rotoscope, dans le fond. Fait que tu sais, il y avait des acteurs, puis ils ont tracé par-dessus.
Ouais.
Pour. À l'époque, je pense qu'ils disaient que ça donnait des mouvements plus fluides. C'était ça l'idée. Là, je trouve que c'est plus weird, là. C'est plus comme basant que tu sais, réaliste, photoréaliste, là, mettons.
Oui, c'est ça. La façon que nos cerveaux reçoivent un dessin animé ou des cartoons, on le sait qu'ils sont pas supposés de bouger smooth de même. Fait que quand ça arrive, mm-hmm. t'es comme... quoi? C'est quelque chose que dans les années 90... 80-90, Fox Studios, ils ont fait une couple de films d'animation, ils ont essayé d'aller dans le cours de Disney mm-hmm. un peu, puis ils faisaient ça beaucoup avec leur truc animé, puis ça a comme ça a pas vraiment fonctionné. Ouais.
Puis c'est ça, puis dans American Pop, tu sais, la facture visuelle est quand même plus éclatée que juste, tu sais. Fait que souvent, ce qu'il va avoir, c'est des personnages rotoscopes devant des peintures, tu sais, des aquarelles, genre. Ou littéralement du live action. Tu sais, comme, à un moment donné, il est dans l'autobus, puis dans la fenêtre, ce que tu vois, c'est qu'ils ont filmé vraiment, tu sais, une rue à partir d'un autobus. Mais l'autobus et le gars sont en animé, sont en rotoscope. Fait que, tu sais, ça a un aspect visuel quand même weird. Tu sais, je vous mentirais si je vous disais que j'étais pas un petit peu batté quand je l'ai regardé, mais tu sais, puis ça a une facture aussi très épique, là, tu sais, ça joue beaucoup dans les clichés. Fait que tu sais, c'est comme un jeune juif là qui sauve de l'Europe, puis en fait de la Russie, se ramasse à New York, après ça il devient, tu sais, pianiste ou whatever dans une affaire de burlesque, puis là, lui, il a un fils, puis là, son fils, il devient musicien de jazz, puis là, lui, il meurt à la Deuxième Guerre mondiale, laissant un enfant qui, lui, devient, tu sais, un musicien de rock'n'roll, et ainsi de suite. Puis, tout le film est monté essentiellement comme un long, long, long montage. Tu sais, ça arrête jamais 2 secondes, c'est toutes les scènes sont en train de se fondre dans l'autre scène à d'avant et d'après. Puis, tu sais, ça joue énormément sur des gros clichés, tu sais, de American Dream, là, tu sais, des affaires que tu vois même, tu sais, dans Le Parrain ou dans Once Upon a Time in America ou des choses comme ça. Mais avec aussi, c'est ça, cette facture musicale-là. Puis le film reprend des tunes, des centaines, je sais pas combien, pas des centaines, je dirais peut-être une 20-25 tunes, et les reformate pour qu'ils fassent partie de l'histoire. Fait qu'à un moment donné, le troisième dans la lignée des quatre hommes, il y a quatre hommes dans le film au complet. Lui, il écrit des tunes pour un band, puis les tunes qu'il écrit, c'est genre des tunes de Bob Dylan. Mais ils sont chantés par une femme qui est plus, tu sais, dans le moule de Janis Joplin, mettons. Fait que, tu sais, c'est intéressant, c'est un genre de repurposing, tu sais, de la culture pop, tu sais, aussi littérale que ça peut sembler, là. C'est très, très, très cliché par bout, puis c'est, tu sais, ça devient borderline comme, tu sais, cucu niaiseux à son pire, là. Puis, tu sais, parce que je pense aussi que ce que c'est généralement, c'est le The Jazz Singer. Je sais pas si tu sais c'est quoi The Jazz Singer. C'est le premier film avec du son, là, avec du dialogue qui est sorti en 1927. Où est-ce que, tu sais, c'est ça, le personnage principal veut devenir un chanteur de jazz et son père, qui est un genre un rabbin ou je sais pas trop. Il y a une parodie de ça dans les Simpsons, là.
Ouais, l'épisode de l'origine de Krusty dans les Simpsons,
ben, c'est
le Jazz Singer.
Fait que, tu sais, puis dans le fond, l'épisode d'origine de Krusty, c'est aussi American Pop, là. Tu sais, c'est pas super recherché. Puis ça, je pense que c'est la grosse ce qui joue contre le film, c'est que, tu sais, la proposition est tellement éclatée que tu vois qu'ils se sont forcés plus là-dessus que sur, tu sais, raconter une histoire que t'as pas entendue 150 000 fois avant, tu sais. Puis on parle d'un film qui est sorti il y a 40 ans, mais même, je pense, en 1981, toutes ces affaires-là, c'était extrêmement familier. Mais, tu sais, ceci dit, j'ai quand même eu du fun à le regarder. Tu sais, c'est quand même une expérience, tu sais, beaucoup plus près de regarder, mettons, des vidéoclips ou, tu sais, de regarder même un concert, là. Dans la mesure où, tu sais, c'est pas... J'étais pas super impliqué dans ce qui allait arriver au personnage parce que tout va trop vite, tu sais, puis on passe d'une scène à l'autre, puis les personnages sont pas super bien définis, puis qu'est-ce qu'il y a de défini des personnages est quand même cliché. Fait que, tu sais, j'ai l'air de vraiment de dire que le film est pas bon, mais c'est juste que, tu sais, c'est particulier, là. Tu sais, c'est une proposition extrêmement particulière et un peu... tu sais, un peu... conçu pour être un film culte, là, tu sais, je sais pas si tu comprends, genre, j'ai l'impression que le film a été construit dans la mesure où il voulait que le monde aille faire le party au cinéma, tu sais, puis soit comme...
Ok, ouais, ouais.
Tu sais, c'est pas un film que tu regardes nécessairement avec une grande attention narrative, I guess, mais tu sais, tout de même, j'ai quand même aimé ça. Je trouvais ça quand même puis tu sais, tout est intéressant dedans. Les décisions sont intéressantes, le choix de la musique des fois est vraiment weird, ce que j'ai trouvé cool aussi. Puis tu sais, puis là à la fin, ça finit avec un vraiment cheesy montage là, où est-ce que tu sais, c'est comme supposé d'être new wave là, tu sais, c'est maintenant, mais tout ce qu'il fait, c'est jouer des vieilles tunes d'Elvis, puis tu sais, genre Night Moves de Bob Seger, puis ça fait de même. Fait que, tu sais, c'est un peu OK Boomer aussi, mais j'ai quand même trouvé ça hot dans un sens. Je sais pas, ça... Tu sais, en tout cas, c'est sûr que c'est une curiosité plus que, genre, un grand film, là. Puis je pense que, tu sais, plein de monde pourrait checker ça puis trouver ça juste, comme, inutile. Mais moi, j'ai quand même apprécié, là, pas vraiment une... Ben, ouais, une expérience. J'ai apprécié l'expérience, sans nécessairement dire que c'est un grand film.
Ben, c'est ça que Bakshi il faisait là, tu sais, j'essayais de j'ai checké rapidement sur Wikipédia parce que moi je serais curieux de voir là si tu un gars genre qui s'est sauvé de Disney puis qui a fait comme oh Chris là, tu sais, moi je veux faire d'autres affaires là, mais on dirait pas que c'est le cas, mais tu vois clairement que ce qui est intéressant avec l'animation nord-américaine, c'est qu'elle va toujours exister comme en symbiose ou en réponse avec Disney, genre. Puis avec ce que Disney fait ou crée, tu sais. Fait que c'est tout le temps du monde qui sont comme check, nous autres, on n'est pas eux autres.
Ouais.
Check, nous autres, on a des coquins avec le sourcil relevé sur le poster parce que nos bonhommes, nous autres, sont irrévérencieux.
Mm-hmm.
Ou check, nous autres, on n'est pas G, on est PG, tu sais, on est des bad boys. C'est le même, fait que. Puis Ralph Bakshi, lui, c'est comme non, attends un peu, là. tu vas voir.
Ouais, c'est ça.
Avant que je fasse mon film d'heavy metal, ça va être ça, là. Puis que. Comme il existait juste quasiment pour stretcher, ça pouvait être quoi, comme de l'animation au cinéma, pis ça va de même, là.
Ouais, c'est ça. Puis t'as l'impression aussi beaucoup dans son. Dans son. Les choses qu'il a réalisées. C'est très rock and roll là, tu sais, c'est très une esthétique de pochette de prog là, puis ces affaires là, tu sais, puis il est vraiment, ouais. Il existe, tu sais, dans un monde. C'est pour ça je pense aussi que, tu sais, rendu aux années 80, il travaille beaucoup moins, tu sais, à cause que justement je pense, tu sais, il était dans l'air du temps des années 70, tu sais, de R. Crumb là, puis tu sais, ces revues là, puis fait que, tu vois, ça, des revues de rock'n'roll, là, tu sais, Cream Magazine, pis ce genre de shit-là, c'est vraiment dans ce genre d'esthétique-là. Une affaire que j'aime particulièrement, là. Fait que, tu sais, pour moi, ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant, mais c'est sûr que c'est un film de son temps, en esti, là. C'est un film de... Même, c'est un film de 1977 plus que de 81, je te dirais, là, dans son... dans sa forme et dans son message.
Ben, tu sais, je l'ai pas vu, mais c'est ça qui est cool de ces affaires comme ça, parce que, encore là, comme Disney, il y a toujours, puis les entre guillemets, les imitateurs, où ils essayent tout le temps d'être un genre d'intemporel, tu sais. L'animation essaye toujours de soit dire, OK, ça se passe à cette époque-là, ou ça essaie d'être un peu intemporel, mais là, lui, il était comme, non, fuck ça se passe à ce moment-ci, puis en tout cas, c'est... Moi, ce qui m'a surpris, c'est quand je l'ai vu sur Letterboxd, tu l'avais écouté. J'étais juste surpris que tu aies écouté de l'animation, en général.
Ouais. Mais je savais pas, tu sais. J'avais le goût de regarder de quoi, de comme. Pas trop me casser le basic, là, tu sais, avec de quoi de. Mm-hmm. Parce que, comme on en a parlé toutes les semaines, là, j'ai pas encore retrouvé mon groove, là. Quoique, je pense que je l'ai, là, le groove, là. Ça semble être revenu, là, mais. Fait que tu sais, j'étais comme, si je vais sur Criterion pis je me mets un Bergman, je regarderai pas de film pendant deux semaines, tu sais. Fait que, il faut que... c'est la même affaire, tu sais, que je me disais avec Terminal, tu sais. Il faut que je regarde des affaires que c'est pas, genre, ultime comme expérience pour que je puisse, comme, me réhabituer. Mais là, tu vois, aujourd'hui, j'ai regardé deux films pis je pense qu'on en regarde un autre après qu'on ait fini de taper. Fait que...
Excellent, ça.
Je suis revenu dans le beat un peu, là.
Ben, je pense... c'est une affaire qu'on pourrait essayer de faire à un moment donné, genre... faire un genre d'épisode top chrono, comme on se donne un défi d'écouter beaucoup de films dans la même semaine, puis après, on fait 5 minutes sur chaque film. Genre, on dit comme, on a chacun écouté 10 dans la semaine.
On pourrait faire ça, hein, ça serait une bonne idée.
Oui, je pense que ça pourrait être drôle comme genre de gauntlet. Puis, mettons, on écoute 10 chacun et. Peut-être 5 de ces films-là, il faudrait qu'on les ait écoutés les deux.
OK, ouais.
Puis les 5 autres peuvent être plus at large, puis on fait comme un genre de d'épisode gauntlet folichon.
pour essayer ça, ouais.
À chaque dimanche soir depuis 8 semaines, à 9h, je me fais un petit drink et je prends mon passeport et je visite Westworld. Pour sa troisième saison, et la troisième saison c'est terminé, et il y a des auditeurs qui m'ont demandé d'en parler un peu. Westworld, qui est, j'en ai parlé justement il y a une couple de semaines, qui est la télésérie basée sur le film de Michael Crichton que j'aime beaucoup. Là où j'en suis avec le show, c'est j'aime vraiment ça. Westworld, t'sais, le film parle d'un parc d'attractions super futuriste où des gens vont visiter des mondes à thématique western, médiévale, tout ça, pour aller boire et se battre et forniquer avec des robots d'apparence humaine vraiment convaincants. Là, à cette heure, avec 3 saisons, je pense que je peux contextualiser le show vraiment. T'sais, la première saison, on est dans le parc. Dans la deuxième saison, ben là, c'est la rébellion des robots qui décident de commencer à tuer les riches qui viennent visiter le parc. Et dans la troisième saison, on a vu certains de ces robots-là se sauver du parc et venir dans le monde extérieur, qui est le monde futuriste de Westworld, pour créer une genre de révolution. Ce que je peux dire, c'est que mon appréciation, ce que j'aime vraiment dans Westworld semble diminuer de saison en saison et d'épisode en épisode, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment un exercice de HBO de faut qu'on crée un hit pop culturel genre que tu sais le monde après les épisodes il en parle sur internet, il parle des puzzles. Puis il y a des mystères à chaque épisode, puis on a hâte de voir c'est quoi la suite du puzzle. Et c'est un show qui est fait pour générer ça, tu sais, dans le moule, mettons, de Game of Thrones avec ça, mais tu sais, tout ça vient justement de Lost en 2004. Ça existait avant, mais ça, c'est comme l'exemple moderne que tout le monde essaie de... C'est l'éclair que tout le monde essaie de recapturer. Mm-hmm. Puis là, Westworld, c'est vraiment un essai pour ça. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que tous les bons shows comme ça, qui ont vraiment du succès, puis qui viennent chercher leur monde, c'est qu'ils ont tout le temps une vision d'un auteur qui raconte, puis qui joue avec ces affaires-là sincèrement. Puis, Westworld co-écrit et co-créé pour la télévision par Jonathan Nolan avec Lisa Joy. Mais, fait que Westworld a tout. Les thèmes d'auteur de Jonathan Nolan, comme tu sais, t'as des scripts qu'il a écrits avec son frère, tu sais, il y a beaucoup de Memento dedans, il y a un petit peu de, tu sais, de Dark Knight dedans, des affaires de un peu d'Interstellar, tu sais, il y a tous ces thèmes sont dedans, mais c'est pas si bon. C'est un show qui est. Je pense que le clivage de show ordinaire avec production extraordinaire le plus sévère que j'ai vu de mémoire à la TV, là. Sérieux, la première saison est toute tournée à Monument Valley. T'sais, c'est des vistas western incroyables. T'sais, la dernière saison, ils sont dans un monde de urbain futuriste qui est de toute beauté. Dans le dernier épisode, il y a des scènes d'émeutes avec, tu sais, 50, 75 figurants, ça look. Tous les thèmes sont là, mais les épisodes sont comme lire des Wikipédia de bons épisodes. Tu sais, ils sont juste comme... Un des points d'appui de la nouvelle saison, c'est qu'ils ont amené Aaron Paul dans la série. C'est encore là, tu sais, une affaire prestigieuse. Une des moitiés de Breaking Bad... dans un genre de everyman, un ancien soldat qui est laissé pour contre dans ce monde-là. Puis, tu sais, c'est très noir. Tu sais, lui qui essaye de trouver son chemin dans la vie, puis tout est contre lui. Puis, tout ce qui arrive, puis tout ce... C'est comme tu lis l'épisode de Wikipédia, t'es comme... Le résumé de Wikipédia, t'es comme... Oh, Christ, c'est ça qui arrive, c'est vraiment nice. Mais quand t'écoutes l'épisode... C'est un autre personnage qui dit comme « Ouais, il y a ça qui m'est arrivé. Ouais. » tu ressens très rarement les émotions puis les affaires comme ça. Fait que, bref, je suis vraiment... Puis les idées de science-fiction sont vraiment fortes. Aussi, c'est un des meilleurs casts à TV. Ed Harris est là-dedans, puis tu vois que cette saison-ci, il était pas content de ce qu'il faisait.
Ouais, j'ai vu m'entraîner avec lui, ce qui était comme... C'est quoi ce style de merde-là?
Ouais, tu vois qu'il y a, il y a plein de scènes disconnectées qui sont écrites pour lui. Je suis comme, je pense que Ed Harris va être content de jouer ça, ouais. Mais il n'y a pas l'air d'être content tant que ça. Là. C'est... Il y a beaucoup de scènes qui sont comme, je vais tuer le show. Bon. Tu sais, genre, ils font dire à pleine voix... Je vais tuer le show puis des affaires comme ça. Il y a aussi plein de personnages qui font des eye rolls dans Westworld cette saison-ci, puis c'est tous des robots. Puis ils faisaient pas des eye rolls avant. Fait que là, je pense qu'ils ont dit comme on va laisser les acteurs vivre leur dissatisfaction avec ce qu'on leur écrit à l'écran. On va les laisser faire. On va les laisser vivre la frustration. Ouais. Fait que tu vois, juste ça, c'est, je trouve ça intéressant que le fait que les acteurs sont pas contents de ce qu'ils jouent, on va les laisser le vivre un peu à l'écran. Ouais. Fait que Lui, il va avoir une saison 4, mais qui. Puis ça a été annoncé il y a quelques semaines, puis moi j'étais extrêmement surpris quand j'étais sûr que toute de cette saison-là laissait présager que ça allait se terminer direct là.
Ouais.
Fait que là, je sais pas quand est-ce que sa quatrième là, saison va sortir. Ça me semble impossible de penser que le show va revenir un jour vu le monde dans lequel on vit. Mais je vais être. Je suis intéressé pareil, mais encore là, c'est vraiment une expérience. De. On va créer un show que le monde va capoter dessus, mais. Il est juste là aux deux tiers, mais ce deux tiers-là, il est vraiment bon, fait que je suis pas capable d'arrêter. Il y a aussi Evan Rachel Wood qui me charme. Est incroyable. Dans la troisième saison, elle est pratiquement une Terminatrix avec qui gonne tout le monde, puis qui est tout le temps bien en côte de queue, puis qui a de l'air badass, puis je suis comme. Mais oui, Evan. C'est sûr qu'Aaron Paul va te suivre n'importe où, là. Moi aussi, là. Je m'en vais. Regarde, tu sais, il y a du monde qui sort dehors, tu sais, ils applaudissent pour les services essentiels. Moi, je sors sur ma galerie, puis j'applaudis Evan Rachel Wood à la fin de chaque épisode de Westworld. Je suis comme, yes, Evan Rachel Wood, tu l'as eu. Je sais que t'es probablement en Californie ou au Texas, mais j'applaudis pour toi.
Elle a fait un film à Montréal, donc elle a peut-être déjà été à Montréal. Je sais pas, mais.
Je me rappelle, j'avais vu. Sur son Twitter qui était à Montréal. Puis là, j'étais comme. Je pensais sérieusement. Hey, si je la croise dans la rue, je vais-tu lui dire qu'elle est bonne dans Westworld? Ah, je verrai ça si ça arrive.
Ouais.
Je m'inquiète souvent de rencontrer des gens que j'aime dans la télévision. Puis de pas me. De pas me couvrir de honte quand si jamais je les rencontrais.
Ouais, je sais pas.
C'est quelque chose à laquelle je pense fréquemment.
Ben moi j'ai comme une relation différente avec ça, là, parce que tu sais, je rencontre constamment du monde que je vois dans la TV. C'est un peu à cause de que je les rencontre, là.
Ouais, toi c'est ça, toi tu peux garder une distance professionnelle, puis est-ce que c'est déjà arrivé que t'as rencontré quelqu'un que t'aimes vraiment le travail? Puis il fallait vraiment comme, OK, là, faut que dial down, là, faut que je me calme, là. Ou t'es rendu habitué, pis c'est
je suis rendu habitué. Tantôt, t'as mentionné Gemma Arterton, là, genre, ça, c'était la première entrevue en personne que j'ai faite avec quelqu'un de connu, genre. Pis tu sais, ça se trouve que, genre, non seulement elle est connue, elle est une très bonne actrice, mais je la trouve très belle. Et j'avais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment stressé. Puis quand ça s'est passé super bien, c'était bien normal. J'ai comme fait, bon, ah, ok, ça va, tu sais, c'est correct faire ça, là, ça se fait, là, tu sais, c'est pas si stressant que ça, finalement, puis j'ai jamais été stressé, ben, c'est pas vrai, tu sais, il y a du monde qui, Isabelle Huppert, je la trouve extrêmement imposante, et j'ai peur d'elle, mais je l'ai interviewée deux fois déjà, fait que, tu sais, c'est pas comme la fin du monde, là, mais, non, d'être vraiment énervé de voir quelqu'un, ça m'arrive plus, ça, je pense, tu sais, il y a sûrement du monde que oui, là, tu sais, c'est sûr, si j'étais dans une situation d'être avec Martin Scorsese, ou, tu sais, je sais pas, là, Al Pacino ou quelqu'un comme ça, je serais sûrement stressé en crise. Mais, en ce qui me concerne, c'est pas vraiment. Je sais pas, c'est pas tant. Mais aussi, j'ai horreur d'être senteux, tu sais, pis de. Le monde qui veut faire des selfies avec des célébrités, je trouve ça, genre, vraiment dégueulasse. Ça me dégoûte.
Non, ça, je serais pas capable de faire ça. Ouais. Ça, c'est. La seule fois que je l'ai fait, c'est quand j'étais backstage à la lutte une fois, puis c'était comme. Les lutteurs sont habitués de se faire demander ça, fait que j'ai comme fait, ah ok, mais même là, tu sais. J'ai juste demandé un selfie avec le gars qui nous a amené là, tu sais. Le lutteur qui nous a amené backstage quand on était à WWE. J'aurais pas été voir une des autres personnes backstage pour lui dire, on peut-tu prendre une photo? Ça m'aurait trop gêné, là. Ben, je le regrette encore de pas avoir eu un selfie avec Sacha Banks.
Il y a une histoire. Sacha Banks, ouais. Il y a une histoire. J'ai une histoire comme ça que j'ai racontée récemment. Ben, je l'ai pas racontée sur un podcast, là, mais parce que ça m'est venu à l'idée. Parce que quand on a fait la semaine passée, ou il y a deux semaines, le live avec les gens de Jusqu'au déclin, là,
ouais.
Ça m'a rappelé une histoire. La seule autre fois dans ma vie que j'ai rencontré Réal Bossé. Quand j'étais ado, au Saguenay, il y a une pièce de théâtre là, qui joue à la baie, ça s'appelle La fabuleuse histoire d'un royaume, puis c'est littéralement, comme le nom l'indique, l'histoire du Saguenay, tu sais.
C'est comme American Pop, mais en live action.
Ouais, exact. Puis, c'est tout on est tous des bénévoles. Moi, j'ai joué là-dedans 2 ans. Puis tout le monde est bénévole, mais tu sais, Ils gardent un pourcentage, je me souviens plus trop comment ça marche, mais ils gardent un pourcentage de l'argent qui était redistribué à la fin, puis c'est pas beaucoup, là. C'est comme 200$ par personne, 250$, c'est un enfant dans le même. Puis, avec ça, tu peux aller en voyage. T'sais. Puis là, il y a du monde que s'ils veulent bonifier leur affaire, ils vont en voyage dans le sud, mais pour toutes les hosties de pauvres, puis le monde comme moi, mettons que moi, cette année-là, c'était ma dernière année que j'habitais au Saguenay, fait que je déménageais à Montréal, fait que je pouvais pas aller dans le sud, parce que j'allais être à Montréal. On a pris notre argent, puis on est comme allé, je sais pas, là, une fin de semaine à Poinégamouc, dans le bas du fleuve. Dans une genre de base plein air ou je sais pas trop. Puis, quand on était là, tu sais, qu'on était des flots qui brossaient sur une base de plein air, on a vu Réal bosser. Puis, je pense que Réal bosser vient de là, de ce bout de pays-là. Puis, il était en train de tourner une émission style La Petite Séduction. C'était pas ça, là, mais tu sais, une affaire où c'est comment on en retourne voir d'où ce que tu viens, tu sais, puis. Je sais pas trop, là, il se promène sa main, puis là, il dit, ah, c'est ça que j'ai acheté des popsicles ou whatever. Fait que là, ça c'était à l'époque de Dans une galaxie près de chez vous. Ce que tout le monde aimait, tu sais, les flots aimaient ça. Fait que tout le monde était allé comme le gosser. Hey, Serge l'Androïde, ouais, tu sais, ouais. Tout le monde voulait prendre des photos avec. Puis là, moi je voulais pas. J'étais comme, c'est correct, j'ai pas besoin de prendre une photo. Puis là, Réal Bossé, il m'a dit, ah, comment, non, ouais, viens prendre une photo, tu vas le regretter si t'en prends pas une. Fait qu'il y a une photo de moi qui a comme 15 ans avec Réal Bossé dans un genre de chalet en bois rond. J'ai l'air full inconfortable parce que, genre, Réal Bossé m'a comme semi-forcé à prendre une photo avec lui. Puis ça, c'est comme. C'est la seule photo de moi que j'ai avec une célébrité, c'est ça. Je sais pas où, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, peut-être perdu là, dans un vieux Pentium 486, là, je sais pas trop, là. Mais ça, c'est la seule fois hein, que j'ai été pris en photo avec une célébrité.
Ben écoute, regarde, c'est une bonne run que ta run de pas te faire prendre en photo continue,
C'est
puis
ça, depuis que j'ai
tu
à peu
voudrais
près
maintenir ça
16 ans.
ici.
C'est ça.
Fait que là, Alex, tu vas nous parler d'un autre film que tu as écouté cette semaine.
Oui, c'est ça. Donc, ce matin, j'ai regardé le film de la semaine Warrior, puis après, je me suis dit, ah ben, je vais me clencher un autre film de Joel Edgerton. Fait que j'ai parti Chappaquiddick sur Netflix pour me rendre compte que finalement, c'est pas un film de Joel Edgerton, mais bien de l'autre roux australien. Qui a des rôles de type Joel Edgerton, c'est-à-dire Jason Clarke. Sont-tu les deux sont dans Zero Dark Thirty, je pense.
Je
Tu peux-tu?
crois que oui. Ils sont en train de pour. Je sais pas si. J'ai vu ça plusieurs fois ou dans un article que le monde en parlait depuis une couple d'années. C'est comment que les États-Unis ont l'air de la misère à se créer des leading men puis purement américains. Et là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de super-héros qui sont joués par des Brits.
Ouais.
Mais là, on dirait que nos dudes col bleu. Comme dans le cas de Warrior et puis Jason Clarke comme dans d'autres affaires, faut qu'on les importe d'Australie pour incarner une
Ouais, c'est ça.
masculinité d'Amérique du Nord. Même si dans ce cas-là, c'est les deux roues d'Australie, on vient de les avoir. Là.
Ouais, c'est ça. Mais donc, ça, Chappaquiddick qui est basé sur une histoire vraie. Une histoire que, en fait, la raison pourquoi j'ai regardé ce film-là, c'est que comme vous savez sûrement, je lis souvent des vieux journaux. Et là, j'étais en 1970 en ce moment. Et dans le journal de 1970, on a un peu le aftermath de l'histoire dans Chappaquiddick. C'est passé en 1969, en fait. C'est quand le Ted Kennedy, qui était à ce moment-là politicien, mais plus up-and-comer, mettons. Donc, Ted Kennedy, qui est le fils de. Le fils de Joe Kennedy, mais le frère de JFK et de Robert Kennedy.
Puis aussi pour le situer pour peut-être une auditoire moderne, tu sais, le maire Quimby dans Les Simpsons
Ouais,
est
exact.
entièrement basé sur lui, là. C'est
Exact.
l'accent, tout ça, c'est lui, là.
Il y a une grosse face carrée, genre de. Tu sais, en tout cas, il est vraiment weird. Il a l'air d'un cartoon, tu sais. C'est pour ça, genre, que je pense qu'il s'est bien adapté.
Ben, aussi, il y avait une époque, le stéréotype des writers de Simpson, c'était du monde de Harvard. Fait que c'était du
Ouais.
monde qui était à Boston, puis c'est une famille justement de Boston, des affaires-là. Fait que je pense que c'était, en tout cas, bref, pas faire notre podcast sur les writers des Simpsons, mais bref, c'est très bostonné comme
Ouais, c'est
histoire.
ça. Donc, Ted Kennedy, qui jouait par Jason Clarke dans le film, participait à un tournoi des régates, ou je sais pas trop. Il faisait une course de bateau. Et ce soir-là, il a fait un party avec du monde de son staff. Il faisait un lift à une jeune femme qui s'appelait Mary Jo Kopnacki. Il faisait un lift. Apparemment, il n'y avait pas de. T'sais, c'était pas sa maîtresse ou rien. Puis dans le film ne suggère pas que c'est sa maîtresse. Mais il a fait un mauvais. Il a pris un mauvais tournant dans la route. Il est embarqué sur un pont et l'auto a plongé dans la rivière. Peut-être qu'elle a réussi à se sortir de l'auto, mais il n'a pas réussi à la sortir elle, donc elle est décédée. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est il a attendu. Il n'avait pas dit à personne, dans le fond. Il est retourné chez eux, il s'est couché, parce que là, lui, il voulait devenir président. Il visait la présidence en 1972. Et il stressait, fait qu'il s'est dit, ben, je, t'sais, je vais pas le dire à personne. Fait que ça l'a pas vraiment été covered up, là, t'sais, dans la mesure où, comme les gens ont trouvé son corps, puis ça a été facilement retraçable à Kennedy, puis éventuellement, il a confessé, t'sais, il a admis ses torts, tout ça. Mais la forme du film, généralement, est à propos, justement, de la gestion de crise quand quelque chose comme ça arrive. Puis, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont accusé le film de vouloir inciter de la pitié pour Ted Kennedy. T'sais, qu'il a quand même laissé, il a pas tué quelqu'un, mais il a laissé quelqu'un mourir. T'sais, c'était pas son intention. Il a pas délibérément conduit son auto dans le fleuve pour tuer la fille, mais ce que le film suggère, c'est qu'il a réussi à. T'sais, il a pensé à lui-même en premier, puis il a pensé à son futur. Fait qu'il s'est sorti de là, puis d'ailleurs. Puis, je pense que le film est quand même assez bien balancé et te laisse tirer tes propres conclusions. Moi, ma conclusion du film, c'est que Ted Kennedy, c'est une vraie mitaine, là, puis c'est un genre comme un large adult fail son. le prototype du Large Adult Fail Son, qui est, ben, dans le fond, pensez, mettons, à Eric Trump ou à Donald Trump Jr., qui sont, tu sais, des dudes un peu ineffectuels, qui existent surtout dans l'ombre de leur père, puis, tu sais, que leur succès dépend comme entièrement des succès du père.
Ouais, des gros bons à rien sont encore, sont dans le décor là parce que leur père est important, mais eux autres, ils ont pas des bonnes idées, ils créent pas leurs propres affaires
Exact.
eux-mêmes, tu sais, c'est mettons que t'as Georges Dynamite qui a inventé la dynamite.
Ouais.
Eux autres sont
Gaétan
comme
Dynamite.
Gaétan Dynamite, les enfants de Gaétan Dynamite comme mais là peut-être les bâtons pourraient être jaunes à place de rouges.
Ouais, c'est ça.
Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est ça des astis
Ouais.
d'enfants d'échecs d'adultes.
Puis, tu sais, je pense que sur sa vie au complet, Ted Kennedy a pas tellement été ça. Il est devenu sénateur. Ça a été un des sénateurs en poste le plus longtemps de l'histoire, genre, des États-Unis. Mais dans le contexte du film, c'est vraiment ça que tu vois. Tu vois un dude qui est complètement dépassé par la déception qu'il vit, puis comme, tu sais, la merde qu'il a faite, là. Il est incapable, tu sais, de prendre possession, mettons, de sa culpabilité, tout ça. Puis, c'est très, tu sais, comme film, là, c'est extrêmement terne et déprimant, là. Tu sais, c'est un film, genre, avec aucune joie dedans. Puis, j'ai quand même trouvé ça hot, tu sais, comme, sans être un esti downer, tu sais, sans être, justement, du Bergman, ou, tu sais, quelque chose de complètement, genre, pas inaccessible, mais, tu sais, de froid et de calculé. C'est un esti film où tout va, tu sais, ça va pas super bien au début. La joie qu'on voit dès le début a l'air poche. Puis là, tout chie, tu sais. Fait que j'ai quand même trouvé ça. C'est intéressant de raconter cette histoire-là comme ça, puis de la raconter un peu de façon pragmatique plutôt que tu sais, émotionnelle. La femme qui meurt est jouée par Kate Mara, puis on la voit presque pas. Ça, c'est poche, tu sais. Je veux dire, c'est sûr que son personnage à elle, qui est morte, elle existe presque pas dans le film à propos d'elle-même. Mais ce qui est comme aussi, c'est difficile de faire, tu sais, je veux dire, ce qui est. ce qui est important ou ce qui est digne de mention de elle, généralement, c'est des affaires qui sont arrivées quand elle était plus là. T'sais. Fait que c'est ordinaire, c'est sûr, de faire un film sur une femme qui meurt puis de le faire sur le dude qui l'a tué. Mais en même temps, je pense que c'est pas la même affaire que... On parle pas ici de, tu sais, une affaire de serial killer non plus, là, tu sais, où est-ce que, genre, ça devient des victimes invisibles, et ainsi de suite.
Ouais, puis ça glorifie pas le dude non plus, là.
Non, puis le dude passe quand même pour une, tu sais, de vidange, là, puis tu sais, dans... Je sais que tu l'as pas regardé encore, mais dans Succession, qui est un esti du show de Large Adult Fail Son, là, ça, là, c'est le ne plus ultra des adultes larges qui échouent, Il y a une storyline qui est tirée de cet événement-là, tu sais, de ce qui est arrivé à Ted Kennedy. Puis dans ça, c'est vraiment comme... Tu sais, c'est vraiment traité comme... presque de la comédie noire, là, tu sais, comme « Oh shit, peux-tu croire que se sont mis dans cette situation-là? » Mais tandis que Chappaquiddick, c'est vraiment plus comme... Il s'est passé quelque chose d'horrible, puis personne n'en est sorti gagnant, puis tu sais, personne voulait... Personne n'a réussi à tirer ça à son avantage réellement. Tu sais, Ted Kennedy n'a pas été condamné. Il y a eu 2 mois de prison, je pense, puis ça a été suspendu. Genre, il y a eu de la probation, puis tout. Mais, je sais pas, il y a quelque chose de très matter of fact à propos du film que j'ai quand même apprécié. Même si, tu sais, ça se transmet aussi par un film qui est quand même, tu sais, visuellement un peu plate. Puis, tu sais, sans qu'il y ait des longueurs, il y a beaucoup de monde en soute dans des... t'sais, dans des genres de salons qui discutent de des affaires plates là, t'sais. Mais j'ai quand même, c'est ça, je trouve ça quand même, si l'histoire de base vous intéresse, là je pense que ça vaut la peine d'être regardé, parce que c'est une histoire particulière, t'sais, puis qu'on oublie un peu, t'sais, puis aussi c'est ça, dans le film on voit le moon landing, t'sais, ça s'est passé en même temps que le moon landing, puis 1 ou 2 mois plus tard, il y a eu les meurtres de la famille Manson. T'sais, ça s'est un peu perdu dans l'histoire, ça, cette affaire-là, parce qu'il s'est tellement passé des choses plus fuckées, ou t'sais, plus qui ont saisi l'imaginaire plus avec plus de force. T'sais. Fait que là, pis quand il y a eu son deuxième ou troisième inquiry, genre dans les années 70, c'était en même temps que la crise d'octobre ici. Fait que, tu sais, dans le journal, ça disparaît complètement, il arrête d'en parler, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas vraiment de l'histoire oubliée, mais c'est de l'histoire oubliable, dans un sens, à cause du contexte, tu sais, tellement que les choses se passaient vite. Je trouve ça quand même intéressant de voir ça de même, tu sais, d'avoir une perspective quand même spécifique sur un événement sur lequel je connaissais presque rien, tu sais. Fait que c'est quand même un bon film. Puis, tu sais, il y a Ed Helms qui joue dedans. Un rôle dramatique, et aussi Jim Gaffigan qui joue les deux genres de right hand man qui s'occupe de toute la business sale de Ted Kennedy, genre. Puis c'est intéressant de les voir aussi faire des rôles dramatiques, là.
Jim Gaffigan, c'est ça, il y a ce casting là de Kennedy Boston, puis de Paul Pirou lui aussi, puis qui a l'air un peu tatar.
Quand il n'y a pas de barbe, là, tu sais, il a l'air beaucoup plus vieux, puis pas mal plus comme jambon, là. Fait que il est dans beaucoup d'affaires maintenant, Jim Gaffigan, d'époque de même, tu sais. Je pense que ça, il y a vraiment une phase de porter une chemise à manches courtes avec une cravate, là, tu sais. C'est vraiment son son casting dramatique. Chappaquiddick, un film intéressant.
Tu l'as écouté où?
Sur Netflix.
Sur Netflix, ok, il est sur Netflix.
Ouais.
Après ça, on a tous les deux écouté un film sur le Flix qui est arrivé justement en mai, qui est notre film de la semaine, puis qui continue notre voyage dans l'œuvre de Gavin O'Connor, qui a aussi réalisé The Way Back avec notre boy Ben Affleck. On a écouté Warrior.
Ouais.
Qui met justement en vedette Joel Edgerton, qui met aussi en vedette Tom Hardy, Nick Nolte, Jennifer Morrison, Frank Grillo, qui une coupe de cheveux là-dedans. comme Frank Grillo avec la face entièrement rasée, je suis juste pas habitué de voir ça.
Il y a tout le temps des barbes. Hein. J'ai jamais vu pas de barbe avant.
C'est la première fois que je le voyais avec un visage rasé, puis c'était comme un peu de gel dans les cheveux et la barbe rasée, c'était comme la version métrosexuelle de Frank Grillo, là, tu sais, c'est incroyable. Oui, puis c'est un drame sportif qui nous amène dans la vie de deux frères, pas le groupe bien-aimé de la province, mais bien deux frères qui sont dans leur à des places différentes de leur vie et qui puis qui sont dans un genre de trouble et qui voient une façon de reprendre contrôle de leur vie en entrant dans le monde du MMA et en se battant pour gagner de l'argent. Certains avec un avec l'aide de son père qu'il déteste, Nick Nolte, et l'autre qui s'en passe. Et les deux frères, chacun de leur côté, puis à travers leurs embûches, vont se rendre dans un genre de tournoi, de Super Bowl des arts martiaux mixtes.
Un genre de série éliminatoire. Là, parce qu'il y a 32 personnes, puis là, tu te bats contre quelqu'un, puis là, tu gravites, tu sais, dans le... Ça s'appelle ouais, Sparta.
C'est ça, c'est ce qui s'appelle Sparta, puis tu te rends jusqu'à la fin, puis là, tu te bats, et puis... vous ne serez pas surpris d'apprendre les deux frères éventuellement devront se battre l'un contre l'autre dans l'octogone, dans la cage. Et mais avant qu'on se rende là, tu sais, justement, le gros tournoi, dans le fond, est peut-être les 45 dernières minutes d'un film de 2h20 qui, avant ça, rentre dans leur vie. Et ce qui les amène là, puis d'où qu'ils viennent, puis leur relation avec leur père, puis entre eux autres, leur milieu. Et toi, tu as trouvé ça comment comme film, Alex? Mettons, c'est un film qui est un héritier de Rocky. Mm-hmm. Je pense que tu avais mentionné dans ta chronique sur The Way Back, sur Rome Montreal, que tu sais. Ça a comme la structure sportive des Mighty Ducks, mais puis que ça a un plafond, mais ça a plus la structure de Rocky, fait que la place où ça peut aller est vraiment différente.
Ouais, différente, mais elle est plus prévisible, tu sais, je veux dire, l'affaire, c'est que, tu sais, en 10 ou 15 minutes de Warrior, tu sais exactement où est-ce que ça s'en va, t'sais. Puis ça, pas tellement que c'est prévisible, que c'est juste comme c'est la seule possibilité. Tu sais, ils vont se battre, ils vont tous les deux gagner, puis ils vont ça, la fin, ça va être eux autres, l'un contre l'autre. Tu sais, puis je pense que qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant de la façon que c'est structuré, parce que ça, c'est pas full original, c'est que eux, ils se parlent une fois dans le film avant d'arriver à la fin. Tu sais, ils ont une scène qui est comme une des meilleures scènes du film, là, sur la plage, là, à Vegas, où, tu sais, genre, ils se crient par la tête. Fait que, tu sais, ça joue pas sur une rivalité vraiment intense. Tu sais, en fait, ils s'en calissent l'un l'autre. Ben, pas qu'ils s'en calissent, mais, tu sais, genre, c'est... Le fait qu'ils vont probablement devoir se battre contre leur frère, c'est comme... quand même minime dans leur quête. Tu sais, puis même si c'est ça qui est le crux émotionnel du film, là, le film le traite pas comme ça. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ceci dit, tu sais, c'est quand même cheese, puis comme The Way Back, il y a une surenchère de problèmes à n'en plus finir. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps une raison de plus pourquoi c'est triste, là, tu sais. Puis ça, j'étais comme là, ça va faire, là, tu sais, fait que. Parce que ben, la personne de Tom Hardy qui s'appelle Tommy. C'est ça? Ouais. La personne de Tom Hardy est très mystérieux au début du film. Puis là, plus ça va, plus on apprend des affaires sur lui. Puis plus on apprend des affaires sur lui, plus c'est comme... C'est-tu nécessaire? C'est-tu nécessaire que non seulement ils jouent leur vie dans ça, mais tu sais, tout est fucking tragique. Leur vie a tout le temps été de la calisse de merde. Ils ont rien, tu sais. Ça, c'est l'affaire qui m'a gossé plus, là, tu sais. Puis, justement, l'affaire qui me gossait dans The Way Back, quand à deux tiers du film, t'apprends des affaires que t'es comme. Était-ce nécessaire? Tu sais, c'est-tu. Je peux pas avoir de l'empathie pour un dude, même si sa vie, ça a pas été juste une série de tragédies, tu sais. Y a, c'est le même problème que j'ai un peu avec Warrior, c'est que t'sais, tout va tout le temps trop mal de toutes les bords. Ça devient un peu genre épuisant puis comme de moins plus dur à avoir de l'empathie, je trouve.
Moi, ce que. Somme toute, par exemple,
J'ai
malgré
quand
ces
même aimé
affaires-là.
ça. Ouais, j'ai quand même aimé ça. J'ai trouvé ça très efficace. Tu sais, pour ce. Encore là, c'est comme. C'est weird, mais le film auquel ça m'a fait penser, c'est Star is Born. Qui est un autre film qui est comme vraiment, tu sais, super entertaining, mais super by the book, là, tu sais, genre. Puis t'es comme, ok, ben ça, c'est pas mal la meilleure façon de faire ça, ce genre de film-là. En toute connaissance de cause, qu'il faut que ça soit cheesy, puis tu sais, il faut qu'il y ait des scènes de genre de monde qui se crie par la tête, puis qui il braille, là, tu sais, puis. Tout le monde a une scène dans ça où ce que genre il capote là. Nick Nolte avec son baladeur qui crie des affaires de Moby Dick là, genre tu sais
Ouais. Ça, c'est un cas de scénariste comme ah oh, man, j'aime tellement Moby Dick, est-ce que je vais slider Moby Dick dans cette histoire-là, là? Qu'est-ce que je suis content?
c'est ça, tu sais, je veux dire, tu vois à tous les moments qui sont un peu qui sont évidents, qui sont placés là de façon évidente, puis que tout le monde est un petit peu genre self-satisfied de oh, tu sais, regarde ce qu'on a fait, tu sais. Mais tout de même, tu sais, j'ai quand même trouvé ça prenant, tu sais, puis j'ai aimé ça le regarder, tu sais, même si en toute connaissance de cause, c'est quand même du gros Hollywood mélodrame beurré épais, tout comme A Star is Born, tu sais. Mais c'est comme du bonbon, mais c'est du bonbon le fun, tu sais. Je trouve pas que c'est comme un film particulièrement profond, mais tu sais.
Ouais, ben, je suis d'accord avec toi que, tu sais, c'est du bon, c'est du mélodrame d'Hollywood vraiment beurré épais, mais justement, tu sais, il y a une place pour ça, puis, tu sais, c'est cool que ça existe. Moi, l'affaire que, justement, je trouve que, mettons, comparé à A Star is Born, je trouve que A Star is Born est, pour la plupart, est en ligne droite, puis défaillit pratiquement jamais. T'sais, ils racontent tout le temps leur histoire de façon vraiment sûre, tandis que je trouve que Warrior se perd un peu par bout, surtout vers la fin. Mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'il y a comme un aspect du film qui. T'sais, ça. V'là un opéra pour les dudes. T'sais, v'là. T'sais, parce que là, c'est pour les. Comme moi, ça fait des années maintenant que j'en parle à Trois-Bières, c'est comme que je suis plus sensible que jamais, fait que je pleure dans plein d'affaires. Là, je te dirais que j'étais ému pendant ce film-là, mais j'ai pas autant versé de larmes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires dans ce film-là qui sont faites pour un public de dudes qui pleure moins facilement ou qui s'est moins. Fait que tu sais, il y a beaucoup de fils qui ont des problèmes avec le père, des fils qui deviennent éventuels. Fait que là, il y a aussi le fils qui a eu un peu des problèmes avec sa femme, mais aussi c'est un fils que il y a une fille qui a été malade. Tu sais, il essaie d'avoir un 360 genre de douleur masculine que ça va être correct pour quelqu'un, mettons, qui trouve ça momoun de brailler au cinéma. Va trouver ça correct de brailler durant ce film-là,
Ouais,
puis
c'est
de
ça.
tirer les émotions pour ça. Fait que j'ai trouvé l'aspect de ça dans le film vraiment comme bien exécuté, tu sais, comme ce genre de plan-là, d'essayer de faire ça. Mais sinon, c'est ça, comme, tu sais, le drame sportif, t'es sur des rails, tu sais. Tu le sais un peu, ou tu sais pas mal ce qui va se passer, mais c'est pas grave si tu le manipules bien. Tout va bien sortir. C'est comme il y a rien de vraiment surprenant maintenant dans Creed,
Non.
mais c'est fucking bien fait, tu sais. C'est fucking bien exécuté. Creed, c'est quasiment comme quelqu'un qui pitch le ballon le dos tourné à un filet puis le ballon rentrait dans le filet au basketball là.
Ouais,
C'est
c'est
ça qui se
ça,
passe là. Warrior est pas exactement aussi bon que ça, mais c'est vraiment transporté par Tom Hardy puis Joel Edgerton.
Mm-hmm.
Puis aussi Nick Nolte. Nick Nolte qui est quasiment un orphelin dickensien de... chapeau en main, voulez-vous me donner un shilling, monsieur? Puis je dis pas que ça marche pas, mais c'est ça qui joue. Mais est-ce que Edgerton, puis encore là, tu sais, c'est deux acteurs, un Australien puis un Brit, qui viennent jouer des archétypes nord-américains
de Pittsburgh.
De Pittsburgh, magané. Mais les autres, ils font vraiment comme, tu sais, justement, cette histoire-là a besoin comme d'une émotion sincère qui shine à travers tout pour que ça marche. Puis c'est eux autres, ils le font comme vraiment fucking bien. Mm-hmm. C'est vraiment mais comme...
T'sais... Ouais, vas-y, excuse-moi.
C'est comme aussi... on a comme eu une petite conversation par chat, genre d'acteurs qui sont plus petits.
Ouais.
Puis qui essayent, on dirait, de projeter un extra sens de masculinité à cause de ça. Mm-hmm. Tom Hardy est un gentleman de 5 pieds 9. Puis, mais tu le sens que lui, il est zéro complexé par sa taille.
Ouais.
Parce qu'il y a des traps énormes, puis une présence énorme, épeurante, où, tu sais, comme... Il brûle pratiquement l'écran, tu sais. Il est vraiment incroyable, je trouve.
Mais ça, moi, j'ai trouvé qu'il y en avait peut-être un peu too much dans ça. Parce que moi, je voyais Marlon Brando là, 100% dans cette performance-là. Puis, c'est toujours quelque chose qui me gosse, tu sais. C'est l'affaire de jeune acteur qui veut avoir démontrer de la masculinité. Tendre, là, whatever, la masculinité vulnérable, I guess. Ils vont tout le temps à Brando. C'est l'archétype, c'est ça.
Mm-hmm.
Puis, je trouve ça... Des fois, ça me gosse un peu. Puis là, je trouvais, tu sais... Surtout dans ça... Tom Hardy, il commence à caler, là, tu sais. Il perd ses cheveux. Puis il a vraiment les mêmes cheveux que Marlon Brando avait quand Marlon Brando avait à peu près l'âge. Fait que là, j'étais comme Chris. On dirait... Tu sais, c'est vraiment calqué sur du Marlon Brando, cette histoire-là. Là. Il ressemble même, tu sais. Puis il parle avec la bouche molle, puis tu sais. Fait que... Je trouve qu'il est vraiment bon, parce que c'est ça, il capture vraiment ton attention. Sauf que moi, si j'y vais un peu plus cérébralement, je suis comme, il fait trop de Brando, tu sais. Mais l'affaire avec Warrior aussi, c'est que tu peux imaginer que ce film-là aurait pu être fait en 1962, tu sais.
Mm-hmm.
Comme, à part, là, tu sais, le sacrage, là, pis tout ça. C'est très, très old school comme film, tu sais. Les archétypes, les personnages, la façon qu'ils parlent, la façon qu'ils jouent, je trouve que c'est très... le dernier film en noir et blanc-ish, là, tu sais, comme...
Ouais.
Puis ça, c'est... Tu sais, j'aime ça, je veux dire, ça vient quand même me parler, mais... En même temps, il y a un petit niveau de try-hardness, là, qui de Tom Hardy qui me gossait un peu. Tu sais, il y a une scène où ce que... justement, il accuse Nick Nolte de venir le voir avec la calotte dans sa main, tu sais, quand il joue à la machine à sous, là.
Mm-hmm.
Ou est-ce que là, j'étais comme ça, c'est son esti de Oscar real moment, là, tu sais. Puis il sait, là. Il sait que s'il est nominé pour ça, ça va être cette scène-là. Puis il va à 110%. Ces affaires-là qui étaient plus trans... Pour ça, j'ai trouvé, genre, Joel Edgerton, il était comme plus groundé comme personnage, là, tu sais.
Ouais.
Parce que, tu sais, une autre affaire qui m'a un peu gossé du film, puis c'est pas vraiment de la faute de Tom Hardy, mais peut-être un peu, c'est que, tu sais, il change son nom. Parce qu'il veut pas... Parce que dans le fond, il sait... ça, c'est un spoiler, là. Il a déserté l'armée. Fait que là, quand il va se battre, il change son nom de famille. Puis là, tout le monde est comme, c'est qui, lui? D'où est-ce qu'il vient? On le connaît pas. Puis ça, je trouvais ça tellement innocent, là. Genre, c'est sûr que quelqu'un l'aurait reconnu. Une personne sur la Terre, tu sais, c'est pas un Daywalker, c'est pas Blade, là, tu sais. Une personne l'aurait vu à TV, il a fait, ben oui, mais c'est Tommy Conlin, pas Tommy Riordan, tu sais. Puis... Fait que tu sais, il y a une affaire de genre mystérieux, ténébreux, que je trouvais qui était super fake. Mais c'est la faute du film. Pas vraiment de la faute de Tom Hardy, tu sais.
Ouais, c'est aussi comme. Mais tu parles que, hey, c'est un film qui aurait pu exister, mettons, en 62. Ouais. C'est ça, justement, personne sait d'où il vient. Ouais, c'est quelque chose qui vient d'un vieux script, là.
Ouais, c'est
master,
ça.
Il y a de la. Post 11 septembre, là, il peut pas disparaître comme ça, là, ouais, Tom Hardy, là.
Exact. Puis là, les commentateurs de la UFC sont comme. Dans un monde de l'internet, on devrait être capable de trouver c'est qui, mais personne sait c'est qui. Puis je suis comme, give me a break, là, ça c'est vraiment niaiseux, là.
Mm-hmm.
Puis tu sais, ça, je pense que ça joue peut-être aussi dans la façon que la performance passe, là. À cause que tu sais, il y a tellement de mystères ténébreux autour du personnage que ça en rajoute une couche peut-être pas nécessaire. Mais c'est ça, tu sais, je pense que tu sais, pour ce genre de film-là, c'est assez bien fait. Ça a beaucoup. C'est quand même assez gritty, là, tu sais. C'est pas trop. C'est gritty sans en mettre, là, tu sais. Il n'y a pas. C'est tourné, tu sais, très. En pellicule, me semble, tu sais. C'est très grainy, puis tu sais, on. Les places où ce qu'ils vont, c'est genre, c'est lettre, là. Le gym est lettre, les restaurants sont lettres.
Va te dire, moi,
Sans.
j'ai souvent passé en Pennsylvanie pour aller à Boston pour des conventions, là, puis Pennsylvanie, c'est rough, c'est
Ouais.
rough.
Fait que, ben c'est ça. C'était correct. Tu sais, justement, c'est ça. Pour revenir sur ce que je disais tantôt, Warriors, ça a vraiment une réputation de film de dude qui fait pleurer les papas, là, genre. Puis, fait que je savais, tu sais, que j'allais pas tant aimer ça, je pense. Je savais que ça allait avoir un plafond là-dessus parce que c'est pas genre, ce genre de film-là nécessairement qui vient me chercher le plus, là. Mais j'étais quand même curieux de le voir parce que ben, justement je l'avais pas vu. Puis tu sais, puis je trouve quand même que le MMA c'est un pas pire sport pour le cinéma.
Ouais, c'est quasiment, ben, tu sais, c'est
Ouais.
partiellement de la boxe, mais, tu sais, c'est, ouais, ça se prête super bien à ça,
Puis justement, puis aussi parce que des fois un fight ça peut durer 6 secondes.
là.
Il y
Ouais,
en
ouais,
a
ouais.
plein dans le film, là, parce que c'est juste Tom Hardy donne un coup de poing, puis là, le dude, il est mort.
Ouais, hey,
Fait.
l'affaire que Tom Hardy donne un coup de poing, le dos est knocké, puis il reste même pas pour la musique ou rien, là. J'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas un lutteur qui fait ça.
Ouais. Il n'y a pas de
C'est.
musique quand il sort, puis il fait juste partir
Il fait juste
après, ouais.
partir, ça c'est badass en Christ. Mais là, avant qu'on termine, c'est quoi les. C'est pas le genre de film qui vient te chercher, mais c'est quel genre de film qui vient te chercher émotionnellement, Alex?
C'est une bonne question.
T'en regardes trop, t'en vois trop, c'est pour ça, t'es
Non,
difficile
mais
à choisir.
c'est tu sais, avant quand même récemment, je pleurais jamais, jamais dans des films. Là. Ça arrivait jamais, jamais, jamais. Puis là, j'essaie de me rappeler quand est-ce que c'est arrivé. J'ai pleuré quand j'ai regardé le documentaire d'Anthony Yelchin l'autre fois, mais je suis pas sûr si ça compte. Non, tu sais, je pense qu'il y a des histoires de. Je pense qu'il faut que ça soit plus. Les stakes sont trop gros dans ça. Tu sais, il y a trop de n'importe quoi qui est une compétition, tu sais, gagner. Ça vient pas me chercher, tu sais. C'est ces affaires-là qui. Fait que, tu sais, je pense que même une histoire de famille de même, tu sais, de genre. Comme famille éclatée, tout ça pourrait venir me chercher si ça dépendait pas aussi d'une grosse. Compétition de Monster Energy, tu sais, puis tout ça, tu sais, à la fin du film, tu sais, il y a un title card qui est comme ce film est en mémoire de notre ami, ta ta ta. Puis le gars qui est mentionné, qui est mort, c'est le gars qui a inventé les linges Tap Out. C'était le CEO de la compagnie Tap Out qui il a crashé sa Lamborghini en 2009, puis il est mort. Fait que, tu sais, là, fait que là, j'étais comme, tu sais, je peux pas verser une larme à un film dédié au dude qui a inventé le linge Tap Out, tu sais, ça arrivera pas, là, genre. Good try là, mais ça pourra pas. Je suis tellement loin de ça dans ma vie là que.
D'ailleurs, les shots dans Warriors, où qu'on voit le dude J.J. Reilly qui. Dit
Oui.
qu'il est sorti de Wall Street pour organiser ça, là. J'étais comme. C'est
C'est
le
Gavin
démon,
O'Connor.
cet homme-là.
Mais c'est Gavin O'Connor qui joue ce
Ah
dude-là.
ouais. Ben, il jouait Satan dans son film. À mon avis, ce gars-là, il est Satan. Je suis parti de Wall Street pour faire que du monde pauvre, que tout le monde, tout le long du film, ils ont de la misère, puis il y en arrache qui se battent, là. T'es comme.
Ouais, qui se tape ça y est,
Tu
là,
es
c'est ça.
Satan, bro.
Puis, ouais, c'est intéressant que le réalisateur s'est casté dans ce rôle-là. Il y a aussi deux dudes qu'on voit tout le temps. Un gars avec des gros cheveux qui a l'air d'être dans LMFAO, là. Ça, j'ai pas trop compris d'où c'est qu'il venait. Tu sais, il y a tout le temps deux gars qui
Ouais,
sont comme
les gars de
ringside.
Taporte
Un
aussi, là.
petit gars, puis un grand gars avec des gros cheveux. Puis ça doit être du monde qui viennent du UFC. Ils sont tout le temps, tu sais, ça coupe tout le temps à eux autres, même si ça nous explique jamais c'est qui sont.
Fait que c'est ça, je pense qu'on a toutes les deux aimé ça. Tu sais, il y a l'intrigue, le film devient balloon, pas juste au niveau émotionnel, mais au niveau comme, ah, ils vont pouvoir gagner 5 millions d'une façon qui exagère tout un peu trop, contrairement, mettons, à Rocky. Tu sais, Rocky, avec sa finale, tu sais, à la fin de Rocky, tu sais, il a pas gagné, mais ce qui est important, c'est qu'il essaye de se battre anyway. Fait que ça blinde. C'est comme une contre-victoire qu'il y a, puis ça rend l'histoire de Rocky vraiment meilleure. Fait que je pense que ça rend un film comme Warrior, ça rend ça difficile de pouvoir vraiment gagner à la fin puis de finir avec une belle grosse fin. Mais ultimement, je pense que c'est ça. C'est un film qui s'écoute bien. C'est un bon drame sportif. Fait que je le recommanderais à écouter.
Ouais, je pense que si c'est quelque chose qui est dans vos cordes, tu sais. Je pense pas que tout le monde va y trouver son compte, là, nécessairement. Genre, je pense que ça peut être quand même archi-gigaplate pour certains. Mais, c'est très dans les règles de l'art, je dirais. C'est vraiment ce que c'est supposé d'être. Puis, il y a quand même une satisfaction là-dedans. Il y a quand même quelque chose que je trouve le fun quand un film est ce que c'est supposé d'être.
Alors, c'est ça. C'est l'épisode des Voyeurs de vue pour cette semaine. Alex, les gens qui veulent te suivre davantage, ils te trouvent où?
Oui, Twitter, Alex avec deux petites... Dax Rose avec deux petites barres en dessous, à la fin. Why Does It Exist sur Instagram, c'est juste des photos de mes 10. Sinon, vous pouvez aller à cultmontreal.com pour voir ce que j'écris. Là, en ce moment, c'est ça, il n'y a pas énormément de films qui sortent. C'est pas tout le temps évident d'obtenir des liens pour tout. Mais je continue de reviewer des choses de temps en temps.
Puis il y a aussi ta page Facebook, Alex lit le journal, où oui, tu lis le journal et tu en parles sur Facebook.
Exact. J'avais mon modem a chié, donc là, je suis tombé un peu, j'ai perdu le beat un peu la semaine passée, mais là, ça revient. Là, donc on est revenu dans le cours normal des choses.
Excellent. Pour ma part, moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre pour des questions de cinéma. Vous pouvez me suivre sur Letterboxd. Où je rentre tous les films que j'écoute. Et sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram où il y a des dessins et sur Facebook où il y a aussi des dessins. Yannick Belzile, cartooniste robuste. Et sinon, vous aimez l'émission. Si vous n'encouragez pas déjà 3 bières, on vous invite à le faire sur Patreon. Au patreon.com/3bières. Et en attendant, on vous invite à aller voir une vue.
Yes!